France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction avec vous, Mathieu Laurent.
Rebonjour, Marie Sorbier, bonjour à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, une vaste offensive aérienne russe contre l'Ukraine ce matin, avec hier des frappes sur Odessa. Nous prendrons la mesure de la fréquence avec laquelle la ville portuaire est prise pour cible. Précision dans un instant de Claude Guibal. Marie Marty-Rossian nous éclairera sur le branding Trump, autrement dit la marque Trump, jusque sur des navires de guerre. C'est la dernière vrille en date du président américain qui annonce le lancement de la construction d'une nouvelle gamme à son effigie. Dans l'actualité française, une cyberattaque coriace, celle qui compromet le bon fonctionnement des services de la Poste depuis hier et qui a baissé en intensité mais qui se poursuit. Explication de Valentin Grille. Enfin, notre série d'invités cette semaine sur le thème patrimoine au défi de la restauration. Fawzi Trita reçoit Alexandre Juglaris, le directeur général de la Fondation du patrimoine. Depuis toujours, Pierre le Grand, Nicolas Ier, aujourd'hui Vladimir Poutine, la Russie s'est échinée à contrôler la mer Noire, ses détroits, Bosphore et Dardanelles, et ses villes portuaires, dont Odessa, qui depuis le début de l'invasion de l'Ukraine est régulièrement prise pour cible. Ce fut d'ailleurs le cas hier soir. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Il est question d'une attaque de drone qui a endommagé les infrastructures énergétiques de la ville, ainsi qu'un navire civil, 2 morts et Claude, selon un dernier bilan, plusieurs blessés.
Oui, parce que Odessa, en fait, c'est le poumon économique de l'Ukraine. C'est sa principale ouverture sur le monde. Sur la mer Noire, ses ports font transiter les céréales, l'huile de tournesol, les métaux, vraiment tout ce qui fait vivre cette économie qui est largement tournée vers l'exportation. Et c'est précisément pour cela que la Russie frappe méthodiquement, presque chaque jour, depuis plusieurs semaines, en visant les ports, les infrastructures énergétiques de cette zone. Sans électricité, vous savez qu'un port, c'est paralysé. Il n'y a plus de grues, plus de silos, plus de chargement. On ne peut pas débarquer, les exportations du coup chutent et les recettes s'effondrent. L'Ukraine, vous le savez, c'est notamment un des leaders mondiaux dans la production d'huile de tournesol et ses entrepôts précisément ont été visés la semaine dernière et Moscou ne s'arrête pas là. Des navires commerciaux étrangers, dont certains qui battent pavillon turc, ont aussi été endommagés en mer Noire. Donc vous le voyez, c'est une stratégie d'isolement qui est ouvertement assumée. Vladimir Poutine veut priver l'Ukraine d'accès à la mer Noire en représailles notamment aux attaques sur sa flotte par des drones navals ukrainiens. Reprendre le contrôle de cette mer que la Russie contrôlait au début de la guerre grâce à sa flotte qui était basée en Crimée, ce qui a imposé le blocus. Mais la riposte de l'Ukraine, vous vous en souvenez, avait obligé la flotte russe à se replier. Kiev avait donc pu rouvrir ses ports. Moscou les frappe donc à nouveau. Son objectif, c'est donc, on le disait, d'isoler l'Ukraine logistiquement, économiquement et de produire à la fois une pression interne sur le pays en faisant monter la colère de la population contre le gouvernement et une pression externe sur les partenaires commerciaux de l'Ukraine qui vont être aussi, eux, affectés par cette déstabilisation des routes commerciales.
Merci beaucoup pour vos explications, Claude Guibal. Quel commentaire oserait l'un des pères de la géopolitique, Sir Alfred John Mackinder, qui lança « Qui tient la mer, tient le monde » en apprenant que l'actuel président des États-Unis vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille à son effigie. Rien de très surprenant de la part de Donald Trump, qui n'a pas manqué d'invoquer le souvenir des grands cuirassés américains qui se sont illustrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Marie Marty-Rossian.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Marie, ces bâtiments de guerre, et c'est un fait très rare pour un président en exercice, portera donc le nom du président américain.
Effectivement, ils s'appelleront les Trump Class USS Defiant. Vous l'avez dit, c'est extrêmement rare qu'un chef d'État en exercice, qui plus est, donne son propre nom à un navire de guerre. Mais on le sait, Donald Trump aime se mettre en avant, lui qui a déjà posé son nom sur des bâtiments publics aux États-Unis et qui envisage même de frapper une pièce de monnaie commémorative à son effigie. Ces futurs navires de guerre, donc, seront les meilleurs du monde, résume le président américain face aux caméras.
Chacun d'eux sera le plus grand navire de guerre de l'histoire de notre pays, le plus grand navire jamais construit dans le monde.
Autour du président sur le podium, les images de ce futur bateau géant sont affichées. Un navire en acier de près de 300 mètres de long qui fend les flots, un drapeau américain à son mât. Ces bâtiments seront équipés de canons et de lasers et pourront également porter des armes hypersoniques et nucléaires. Des navires conçus, je cite, pour faire peur aux ennemis de l'Amérique, mais qui ne visent aucun pays en particulier, soutient Donald Trump.
C'est un message pour tout le monde, pas pour la Chine. On s'entend très bien avec la Chine. J'ai une très bonne relation avec le président Xi.
Toujours est-il que cette annonce intervient alors que la Chine, justement, renforce et modernise en ce moment sa propre marine. Pékin a récemment mis en service son troisième porte-avions. En attendant, selon Donald Trump, la construction des deux premiers navires de cette flotte américaine devrait prendre un peu plus de 2 ans.
Merci à vous, Marie Marty Rossian. Et dans les Caraïbes, l'actuelle armada américaine est encore et toujours aux trousses d'un pétrolier lié au Venezuela dans le cadre du blocus naval mis en place par Washington sous le sceau de la lutte contre le narcotrafic. Sans transition ou presque, et toujours sous la pression des États-Unis, la Colombie va commencer cette semaine à pulvériser du glyphosate sur des plantations de coca à l'aide de drones volants à basse altitude. Une pulvérisation contrôlée afin d'éviter que les produits chimiques n'affectent les populations riveraines ou les écosystèmes, précise le ministre colombien de la Justice. Le glyphosate à dangerosité variable, semblerait-il, selon les latitudes. Retour au Bosphore, à Istanbul, où deux jeunes Françaises détenues depuis 10 mois en Turquie, accusées d'avoir transporté près de 25 kilos de cannabis depuis la Thaïlande, viennent d'être fixées sur leur sort aujourd'hui pour leur deuxième comparution devant la justice. Elles écopent en effet d'une peine de 10 ans de prison ainsi que d'une amende d'environ 2000 euros pour transport de substances illicites. Istanbul, où l'on retrouve Marie-Pierre Véraud qui a assisté à l'audience.
Elles ont 22 et 23 ans, Ibtissem et Mariam, deux frêles silhouettes enveloppées d'un manteau gris pour l'une, noir pour l'autre. Elles assurent au juge qu'elles ignoraient tout du contenu des valises qu'un inconnu, l'ami d'un ami d'enfance, leur avait confié. Elles plaident la naïveté. Elles ne se sont pas méfiées lorsque cet ami d'enfance leur a offert un voyage tout frais payé en Thaïlande. Pas méfiées lorsqu'il ne les a pas rejointes comme prévu. Et pour cause, il est en prison, ce qu'elles disent ignorer. Pas méfiées non plus quand le jour de leur retour, un homme leur apporte deux lourdes valises cadenassées à transporter jusqu'à Bruxelles. Mais le vol transite par Istanbul et la Turquie est très sévère dans les affaires de drogue. Les bagages venant de Thaïlande sont systématiquement fouillés. 30 kilos de cannabis, cela peut valoir de 12 à 20 ans. La maman d'Ibtissem le sait, qui est là dans la salle se rongeant les ongles alors que les avocats plaident en turc. Quand la sentence tombe, elle s'effondre en larmes. Pourquoi, crie-t-elle, elles sont innocentes. Sa fille et son amie repartent menottées vers la prison. Les avocats vont faire appel. Ils espèrent une réduction de peine en raison du jeune âge et de l'absence de casier judiciaire des deux jeunes femmes. Mais ils se disent relativement soulagés par la clémence du verdict qui ne retient que le transport et non le trafic de drogue et demanderont un transfert en France pour qu'elles puissent y purger leur peine. Mais cela prendra du temps. 10 ans, soupire la mère. Cela veut dire qu'elles sortiront à plus de 30 ans. Le prix de la naïveté, ajoute-t-elle, est bien lourd à payer.
Marie-Pierre Véraud à Istanbul.
Rustine, parachute ventrale, c'est ce long autant d'images pour parler de la loi spéciale soumise au vote ce mardi.
Au vote des deux assemblées, ce texte adopté hier soir au Conseil des ministres permet en effet de prélever l'impôt et les taxes, de financer provisoirement l'État et les administrations malgré l'absence de budget, un pis-aller, en attendant de nouvelles parlementations et qui sait, une brèche par laquelle compte encore se faufiler le gouvernement sans faire usage de l'article 49.3. Roland Lescure, ministre de l'économie.
La loi spéciale, c'est la roue de secours qui vous permet de faire les quelques kilomètres qui vous amènent à la station pour changer les roues et avoir un budget pour l'année prochaine et repartir, j'allais dire, de plus belle. On va lever l'impôt, on va financer les collectivités locales et on va pouvoir lever de la dette, emprunter, pour financer notre dette. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire que on va faire le minimum, zéro investissement nouveau. Si on a lancé, par exemple, un programme de construction de prison, Gérald Darmanin, ça s'arrête jusqu'à ce qu'on ait un budget. Dans une loi spéciale, 12 pages, on ne peut pas financer les associations. Pour pouvoir financer les associations qui accompagnent les Françaises et les Français dans plein de domaines importants, il faut un budget, il faut les 400 pages. Parce que c'est ça qui prévoit de les financer. Ne pas financer les associations pendant quelques semaines, ça ira, on se rattrapera. Si vous passez à 2, 3, 4 mois, c'est fini, vous allez avoir un trou. On va commencer à travailler dès aujourd'hui par des échanges informels sur les éléments de budget qui ont déjà été discutés à l'Assemblée au Sénat, parce qu'on part pas de zéro, il y a déjà eu beaucoup de discussions. Mais la réalité, c'est que si vous passez un 49.3 sur un texte sur lequel les gens ne sont pas d'accord, vous n'aurez ni budget, ni gouvernement, puisque le gouvernement tombera.
Voilà, Roland Lescure sur le plateau de nos confrères de BFM TV. Une cyberattaque coriace pour la Poste. Le site de l'institution est demeuré inaccessible jusqu'à 10h30 ce matin. Après plus de 24 heures d'indisponibilité, même chose pour ses filiales, la Banque Postale ou Digipost, ce service qui permet de déposer des fichiers numériques. L'organisme souligne que la livraison des colis était perturbée, mais a repris son cours et que les données utilisateurs ne sont pas en danger. Bonjour Valentin Gris.
Bonjour Mathieu.
Valentin, la Poste, il faut le préciser, était victime de ce que l'on nomme une attaque DDoS.
Oui, c'est une attaque des plus courantes, définition par Olivier Savornin, directeur Europe de l'entreprise Cohesity.
Ça consiste à bombarder les serveurs d'une entreprise avec une quantité de requêtes importante de manière à saturer les serveurs. Et la conséquence, c'est que ça empêche à des utilisateurs légitimes de pouvoir accéder au service.
Alors selon l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité informatique, ces attaques ont doublé en 2024. Elles sont le fruit d'assaillants de plus en plus inventifs, de mieux en mieux équipés. La justice américaine a ainsi saisi l'année dernière un réseau de centaines de milliers d'appareils connectés prêts à attaquer. Le but est de semer le chaos et en tant que logisticien, la Poste avait été visée déjà en février 2024. Difficile d'anticiper ces attaques, mais cette fois, le délai de retour à la normale s'est allongé. Selon Olivier Savornin, cela tient à la structure de la Poste.
La Poste est une grande entreprise avec une surface d'exposition très importante. Elle est donc plus sujette à des attaques longue durée par le simple fait de sa surface d'attaque.
Résultat, plus de 24 heures de coupure, le signe d'une impréparation, selon Amélie Lutrin, fondatrice du cabinet EOCosmo.
Il pourrait très bien y avoir un blocage à un moment donné, mais les procédures internes font qu'il y a toujours le plan B. C'est ce qu'on appelle les plans de remédiation, donc qui permettent que quand on est attaqué, il y a le plan B qui se met en marche et donc on fonctionne. Alors, en mode dégradé peut-être, mais on fonctionne quand même.
Alors les experts se questionnent, les outils de la Poste sont-ils suffisamment élaborés? Du site internet au pare-feu, la formation est-elle au niveau? Car les attaques se multiplient contre les organisations publiques ces derniers mois. La CAF, France Travail à 4 reprises, mais aussi le ministère de l'Intérieur la semaine passée. Et si la Poste souligne qu'aucune fuite n'est à déplorer pour l'instant, il n'est pas rare que les attaques DDoS en dissimulent d'autres et qu'un virus dormant ne s'empare ensuite de données sensibles.
Merci Valentin Gris.
Il existe beaucoup de gènes communs à des maladies psychiatriques que l'on croyait différentes. C'est le résultat d'une étude parue dans la revue Nature.
Il s'agit même de l'une des analyses les plus complètes au monde, réalisée sur 1 056 000 malades dont le génome a été décortiqué. L'étude parue mi-décembre porte sur 14 maladies mentales. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour Mathieu Laurent.
Tara, on y comprend par exemple que la schizophrénie et les troubles bipolaires ont plusieurs gènes en commun.
Oui, les auteurs, qui sont tout de même une bonne cinquantaine auxquels on peut ajouter 11 groupes de travail, ont voulu retracer le paysage génétique de chacun de ces 14 troubles psychiatriques et voir si ces paysages se recoupent en quelque sorte. Ils ont ainsi localisé précisément 238 régions du génome dans lesquelles se situent des gènes qui sont capables de jouer sur plusieurs troubles psychiatriques à la fois. Et parallèlement, il y a aussi plus de 400 autres localisations où des gènes spécifiques et leurs variants correspondent à des maladies bien précises. Si je résume, d'une certaine manière, l'étude a montré 5 grandes familles de troubles qui partagent plusieurs traits génétiques. Je vais en citer 2 seulement. Par exemple, vous l'avez dit Mathieu, la schizophrénie et le trouble bipolaire que l'on distingue en général dans les classifications. En fait, ces deux maladies sont génétiquement très proches. Même chose pour ce que l'on nomme les troubles internalisés, donc tourné vers soi-même, que sont les dépressions majeures, troubles anxieux et stress post-traumatique. Là encore, de grandes parties du génome de ces malades se chevauchent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer, comme l'ont fait les chercheurs, que dans la première famille, schizophrénie et bipolarité, les gènes identiques se situent sur des neurones dits excitateurs, alors que dans la deuxième famille, celle des troubles anxieux, dépressifs, etc., ils sont essentiellement dans les cellules gliales, autrement dit dans les cellules de la matière blanche du cerveau. Comme l'explique le psychiatre Boris Chaumette dans les colonnes du Figaro, cela pourrait avoir des retombées thérapeutiques parce qu'aucun médicament, dit-il par exemple, ne cible pour l'instant spécifiquement ces cellules gliales. Enfin, bien sûr, il y a des limites à cette étude. D'abord, il faut savoir qu'aucun de ces gènes ne peut prédire une maladie, chacun étant capable de s'exprimer différemment, même s'il est situé au même endroit. C'est l'ensemble de la partition qui compte. Et puis, l'étude est faite sur des personnes caucasiennes, donc essentiellement blanches, et ne peut facilement être généralisé.
Merci pour toutes vos explications, Tara Schlegel. Mêlons-en aux invités de ce journal de midi et demi toute cette semaine sur le thème du patrimoine au défi de la restauration. Parmi les défis quotidiens qu'il faut relever, Il y a ce que l'on appelle affectueusement le petit patrimoine et qui fait l'identité de la France, celui qui n'est ni classé, ni protégé et qui se trouve dans nos communes, surtout en milieu rural. Comment sauver une petite église, une grange, un lavoir? C'est l'une des nombreuses missions de la Fondation du patrimoine. Pour évoquer ce défi, notre invité Alexandre Giuliaris, le directeur général de la Fondation du patrimoine, est là, interrogé par Fauzi Trita.
Bonjour Alexandre Giuliaris.
Bonjour.
La Fondation du patrimoine s'occupe de combien de sites qui ne sont pas protégés? Combien de moulins, de lavoirs, d'églises, de maisons anciennes, de granges ou encore de ponts?
On évalue que le patrimoine non protégé, petit patrimoine, c'est plus de 296 000 édifices partout en France. Et c'est une estimation prudente. Vraisemblablement, c'est même plus que ça.
Donc vous avez pour mission de le restaurer, de le valoriser. Vous le faites grâce à des dons, à la fois de particuliers et d'entreprises.
Tout à fait. Cette fondation, elle a été créée sur un modèle il y a quelques années, il y a 30 ans en réalité, sur le modèle du National Trust britannique, qui est une organisation qui est beaucoup plus importante, qui mobilise des bénévoles pour aider les propriétaires de patrimoine. Nous, ce qu'on fait concrètement, c'est d'aider ces propriétaires, qu'ils soient privés ou publics. Donc on vient les rencontrer, ces bénévoles rencontrent ces propriétaires et leur disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider concrètement dans votre financement de projet? Et là, il y a une première solution qu'on met en place quasi systématiquement, c'est la collecte de dons ouverte à tous. Il suffit d'aller sur le site de la Fondation et on peut faire un don très simplement. Alors après, évidemment, on essaie d'aller mobiliser des entreprises pour du mécénat, le loto du patrimoine avec Stéphane Bern, évidemment. Mais la porte d'entrée, celle à laquelle on est le plus attaché, c'est le don, parce que c'est l'engagement participatif citoyen de chacun.
Est-ce qu'aujourd'hui, la Fondation du patrimoine a suffisamment de ressources pour restaurer ce petit patrimoine?
Malheureusement, non. Effectivement, les besoins sont assez considérables. Je vous ai dit 295, 296 000 au moins édifices qui ne sont pas protégés. Et sur ce volume, on estime à la Fondation du patrimoine qu'il y en a 67 000 qui sont en état critique, c'est-à-dire soit en état de péril et il faut intervenir très vite, soit en mauvais état et si on n'intervient pas rapidement, ça va continuer de se détériorer. Mais il y a urgence. Parce que finalement, le patrimoine, il est victime de plusieurs choses, de plusieurs périls. D'abord, le premier, c'est l'indifférence. Si on ne s'intéresse pas au patrimoine, évidemment, il va se détériorer parce que le temps fait son œuvre. Il y a un phénomène qu'on commence à mesurer de manière plus précise, mais qui est très important, c'est le dérèglement climatique. En réalité, les réchauffements, les pluies, puis les techniques de construction ou quand les bâtiments ont plusieurs siècles, évidemment, ça se détériore et donc les chaleurs très fortes ou les pluies torrentielles, ça abîme les bâtiments.
Alors, est-ce que les Français et les entreprises sont au rendez-vous via des dons, via les dispositifs fiscaux, hein? Est-ce que les Français, les entreprises sont au rendez-vous?
La réponse est oui. Les Français sont au rendez-vous sur ce sujet. Pourquoi? Parce que je crois que le patrimoine, c'est quand même un sujet qui rassure. Dans un contexte, on a parlé de dérèglement climatique, on sait qu'il y a aussi des cassures dans notre société, il y a des inquiétudes avec tout ce qui se passe dans le monde. Le patrimoine, ça nous relie au passé et ça nous engage vis-à-vis de l'avenir.
Vous dites que les Français, les entreprises sont au rendez-vous, qui bénéficient aussi de déductions fiscales. Est-ce que ces dispositifs fiscaux vous paraissent satisfaisants?
Là aussi, on pourrait souhaiter faire mieux, mais il y a aussi une réalité, c'est la situation budgétaire, la situation financière. Il y a un élément qui pour nous est absolument capital, c'est de ne pas toucher à ces outils fiscaux, à ces déductions fiscales. Si on peut faire mieux, c'est toujours mieux, mais ce sont des choix politiques, des choix économiques. Ce qu'il faut, c'est de la stabilité. Donc nous, notre message, c'est à défaut de pouvoir faire mieux, surtout ne touchez pas aux dispositifs existants parce que globalement, ça fonctionne bien dans notre pays. La stabilité en matière de déduction fiscale, c'est très important.
Est-ce que la Fondation du patrimoine a vocation à sauver tout le petit patrimoine? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, parce que les ressources manquent, faire des choix beaucoup plus forts et laisser tomber des bâtiments pour en sauver d'autres?
Encore une fois, ça ne dépend que de nous. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux générations futures? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme témoignage? Tout ça, ça ne dépend que de notre volonté. Qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures? Est-ce qu'on veut laisser des bâtiments en bon état, qui sont des témoignages aussi de l'histoire du passé? Et donc, la Fondation, son rôle, c'est d'essayer de mobiliser ses énergies, ses bénévoles, ses donateurs, ses entreprises, tous ceux qui veulent s'engager pour la société, pour le pays, et de canaliser des fonds pour intervenir concrètement.
Est-ce que ce petit patrimoine, pour le restaurer, est-ce qu'il ne faudrait pas le valoriser? Vous aviez commandé une étude qui nous indique que pour 1 euro engagé dans un chantier du petit patrimoine, on pouvait récupérer 21 euros. Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser davantage des visites ou des manières de valoriser ce patrimoine pour le sauver?
Alors, vous avez raison. Investir dans le patrimoine va être un investissement rentable, en particulier dans ces petits territoires ruraux, parce que ça va engager, entraîner du tourisme. Et c'était tout le sens de notre étude. Ce 1 euro qui génère 21 euros de retombées économiques, la part la plus importante, c'est l'activité touristique, évidemment, parce que quand vous avez des touristes qui viennent, ils consomment, ils louent une chambre, ils vont à l'hôtel, ils vont dans un restaurant. Tout ça, c'est de l'activité engendrée. Et puis, vous avez de l'artisanat, enfin, toutes ces activités économiques.
Merci beaucoup, Alexandre. Juglaris, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation du Patrimoine.
Merci Fawzi Trita et Aloïs Guérin pour la préparation. Demain, nous aurons pour invité Pierre Dubreuil, le directeur général du domaine national de Chambord. Quelques mots, la météo de l'après-midi, près de 3000 foyers privés d'électricité dans l'Hérault, département placé en vigilance rouge aux crues depuis hier. Des crues moins fortes dans trois autres départements, l'Aveyron, 25 000 foyers sont là privés d'électricité en raison de chutes de neige, la Lozère et le Tarn. Ce journal a été préparé avec Alix Forgeau, à la technique Grégory Wallon. Prochaines informations à 18h, elles vous seront présentées par Camille Marigot.